Radio Flag. L'atelier radio de l'UBU 12 ans. Sur Studio Z.
Bonjour, je m'appelle Bilal.
Bonjour, je m'appelle Asia.
Bonjour, je m'appelle Exocé.
Bonjour, je m'appelle Blanchet.
Bonjour, je m'appelle Ajar.
Bonjour, je m'appelle Doussou.
Nous sommes des élèves de la classe de Pedouza, unité pédagogique pour élèves à l'enfant arrivant.
C'est une classe qui accueille des jeunes lycéens étrangers qui apprennent à parler le français.
Cette année, nous avons fait un atelier de lecture dans la classe. Nous avons raconté les archives, nos histoires, nos parcours qui nous ont menés ici et nos histoires, nos parcours, avec l'aide d'un écrivain Alain Boujac et notre prof de français, Madame Bess, en archive de texte, qu'on va mettre dans un livre qui sortira en main et sera disponible au CDI.
Alain Boujac est un écrivain et photographe. Il vit à Dreux. Il a 54 ans, il a écrit le scénario des bandes dessinées Les Tirailleurs et Kérosène, édité chez Futuropolis.
Nous lui avons posé des questions sur son travail.
Pourquoi aimez-vous écrire des livres et faire des photographies ?
C'est parce que j'aime bien aller à la rencontre des gens qui me racontent un peu leur vie, leurs histoires. Et à partir de ce moment-là, je prends toujours un carnet avec moi, je commence à prendre des notes et puis à faire des photos pour accompagner les textes.
Est-ce que vous écrivez souvent ?
J'ai toujours écrit, mais depuis que j'ai fait le livre là, sur l'ancien tirailleur marocain, ça devient maintenant une habitude. J'ai toujours un carnet avec moi et j'écris un peu ce qui me passe sur la tête ou enfin, tout ce que j'adore faire, c'est m'asseoir à une terrasse de café et puis prendre des notes sur ce que je vois, sur les gens qui passent, des attitudes, une lumière. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant.
Quels sont les sujets qui vous intéressent ?
Sujets qui touchent à la société, c'est-à-dire que ce soit l'environnement, que ce soit les migrants, comme là, tous les ateliers que j'ai fait avec vous, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Je crois que ça nous a tous apporté quelque chose. Donc d'une manière générale, voilà, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on appelle les sujets sociétaux, sont pour moi un peu une source d'inspiration et des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler.
Vous êtes photographe, vous avez été au Brésil et nous savons que vous rentrez du Guatemala. Est-ce que vous aimez voyager ?
Ces voyages là au Mexique, Guatemala, puis il y a eu le Brésil, c'est des voyages que j'ai fait dans le cadre de commandes. Sont mes premiers voyages lointains et j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc là, c'était pour aller voir des gens qui travaillent sur des plantations de cacao. Donc j'ai dans des endroits qui n'étaient pas du tout touristiques. Et forcément, un voyage en appelle un autre. Donc oui, j'aimerais bien pouvoir continuer à voyager.
Est-ce que c'est difficile de faire ces deux métiers ? Est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent avec vos livres ?
Alors c'est vrai que c'est des métiers qui sont difficiles. Il faut être vraiment persévérant, comme on dit, il faut avoir le feu sacré. C'est vrai que plusieurs fois je me suis posé la question, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas ? Et puis finalement, c'est quelque chose que j'aime tellement faire que je continue. Et par rapport à l'argent, je m'en sors, mais voilà, je gagne pas des 1000 et des 100, loin de là. Mais bon, tant que ça surfe à peu près, je continue.
Est-ce que vous avez le bac ?
Eh ben non, j'ai pas du tout le bac. Je dois bien vous avouer que j'étais pas. C'est pas que j'étais pas un élève studieux, mais je me retrouvais pas trop dans le schéma scolaire. Donc j'ai quitté l'enseignement en fin de seconde. Après, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche de dessin, de pige pour des journaux régionaux et de fil en aiguille. Et ben voilà. Je m'en suis pas si mal sorti que ça, mais c'est vrai que c'est un parcours d'autodidacte.
Pourquoi étiez-vous curieux de nos histoires ? Quels sont vos objectifs après avoir écouté nos histoires ? Quel message voulez-vous faire passer ?
Comme beaucoup de gens, quand on parle de migration, de migrants, on se rappelle des images qu'on voit à la télé, de choses qu'on a entendues à la radio ou lues dans la presse, mais on n'a pas un contact réel avec ces histoires-là. Et de venir à votre rencontre, en plus la confiance qu'il y a eu entre nous, bah, d'un seul coup, on comprend mieux les raisons des départs. Malheureusement, on comprend aussi que dans le monde, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Et puis ça interroge beaucoup sur la capacité qu'a notre société, puis même d'une manière générale qu'a l'humanité à accueillir les autres. Et dans les réflexions qu'il y a eu, donc il y a tous ceux qui sont partis pour des raisons un peu de guerre ou de parce qu'ils sont dans des pays très autoritaires, mais arrive un phénomène aussi qui est celui du réchauffement climatique. Où là, beaucoup de migrants vont dire « mais accueillez-nous ». Et là, on pourra pas, on va être confronté à une chose, c'est que la pollution et le réchauffement climatique, on en est tous responsables. Donc, on pourra pas dire « bah non, débrouillez-vous ». Donc, pour essayer de répondre simplement à la question, bah oui, cet échange-là est forcément enrichissant. J'espère que tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a fait, bah, pourra sensibiliser un petit peu tous les lecteurs, et puis que peu à peu, voilà, il y aura plus de tolérance et de capacité d'accueil.
Qu'est-ce que ça vous a fait de travailler avec nous ?
Bah, ça a renforcé une conviction que j'ai, à savoir que dès qu'on fait attention à l'autre, qu'on l'écoute, donc ce que je dis souvent, que c'est comprendre l'autre, c'est se mettre à sa place. À ce moment-là, il y a des liens qui se font, il y a une compréhension. Et puis ça a renforcé, alors on pourra me reprocher d'être un grand naïf, mais qu'on peut arriver à s'entendre, à s'accueillir, et puis peut-être travailler à un monde un peu plus solidaire. Mais là encore, je pense qu'on pourra me faire le reproche d'une naïveté par rapport à ça.
Alain Boujac, c'est français ça ?
J'aime bien la façon dont tu poses la question et avec le petit accent qui va avec. C'est français, oui, dans le sens où moi je suis né en France, à Saint-Étienne, mais mon grand-père était polonais. Voilà, mon grand-père et ma grand-mère paternelle étaient polonais. Et ils ont quitté la Pologne quand ils étaient jeunes. Ils ont voulu repartir en 1936, mais c'était plus possible avec le Front populaire. Et puis après, la guerre est arrivée. Finalement, ça a été l'histoire de beaucoup d'immigrés polonais. C'est-à-dire qu'il a fini par travailler dans les mines, dans le Nord. Je me souviens, quand on y allait un peu en vacances, dans les toutes petites maisons, dans les corons, là, je trouvais ça terriblement triste. Et puis voilà. Et puis comme beaucoup de mineurs, et ben il est décédé en partie de la silicose.
Est-ce qu'il y a des histoires tristes dans votre vie ou dans celle de vos ancêtres ?
Des histoires tristes, pas véritablement. Par rapport à celle de mes grands-parents, de mes ancêtres, bah, je connais très peu de choses en fin de compte. On en parlait tout à l'heure là, du fait que mon grand-père était un immigré polonais, mais les raisons de son départ, c'est quelque chose... Mon père m'en a jamais parlé, il a tenu ça un peu secret. Mais globalement, oui, non, j'ai une vie plutôt... qui a été plutôt clémente. Hein. J'ai pas été confronté à la perte de proches ou à la maladie ou à la guerre comme vous avez pu connaître. Donc c'est bien. Sincèrement, j'ai pas à me plaindre.
Nous allons écouter des extraits du livre de l'atelier. Je vous rappelle qu'il sera publié en mai au lycée et que vous pourrez le découvrir au CDI.
J'ai 17 ans. J'ai habité en Turquie 2 ans, mais j'ai grandi en Syrie. Dans la ville de Basnas, j'ai une sœur, ma famille. Nous vivions dans une maison de taille moyenne, mais nous avions une vie normale. Est arrivée la guerre, la vie est devenue difficile. Mon père travaillait dans un hôpital, il avait une voiture. Au début de la guerre, certaines personnes ont été kidnappées et d'autres assassinées. Mon père a été l'une des personnes qui devraient être kidnappées. Ils ne l'ont pas enlevé, mais ils ont écrit une lettre menaçante de faire exploser notre voiture. Mais ma famille a été contre le régime. Les personnes du régime pourraient tuer ou emprisonner.
La ville dans laquelle je vécu s'appelle Asti, qui est située dans la région piémontaise, et une ville avec des bâtiments anciens et très touristique, surtout au mois de septembre, car la ville accueille des fêtes connues comme les Sagres et il parle di Asti, et très connue dans tout l'Italie. Asti n'est pas si grand, mais pour moi, il reste toujours la meilleure, car c'est dans cette ville que j'ai rencontré beaucoup de gens et des choses, même si je ne suis pas d'origine italienne. Et j'estime que Asti est ma deuxième maison.
Radio Flag, l'atelier radio de l'EUVU 12 ans. Source Studio ZEF.
Stéphane Bouquet est un écrivain français qui habite à Paris. Pour son livre « La baie des cendres », il a choisi 9 photographies de Morgane Rezzi et écrit 9 textes poétiques pour chaque photo. Il est venu dans notre lycée le 13 mars dernier et a répondu à nos questions.
Ah, en fait, c'est une raison secrète. Il y a une raison, mais en fait, c'est un secret. Et je l'ai encore, j'ai jamais dit encore pourquoi j'avais choisi ce titre à personne, en fait. Voilà, donc je peux pas vous le dire, parce qu'en fait, c'est un secret. Et je me suis dit que je le dirais aux gens quand quelqu'un me dirait pourquoi. Quand j'écris des poèmes, normalement, j'écris toujours un peu les mêmes genres de mots. En fait, c'est des mots plutôt simples, en fait, que tout le monde peut comprendre. Et même, je fais toujours très attention à ce que les mots soient assez accessibles pour que plein de gens puissent les comprendre. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime pas faire. Alors, je sais pas si vous connaissez pas ce mot, je pense, mais peut-être vous le connaissez en anglais, néologisme, which in English is neologism, but even in English maybe you don't know it. It means new words, like the words you create yourself that don't exist in the vocabulary, but you do create themselves. So it's yourself, those words. So it's called neologism. En français, c'est le même mot, néologisme. Donc, des nouveaux mots,
comme
en fait.
Morganatique, par exemple, il y en a un
peu. Oui, non, morganatique, ça existe.
Ça existe.
Ouais. Mais par exemple, je fais qu'il n'y ait pas de nouveaux mots, que j'invente pas de mots pour que tout le monde puisse les comprendre. Voilà. Mais là, je me suis donné une contrainte, c'est d'utiliser des mots que j'avais jamais utilisés, en fait. C'était une sorte de contrainte pour écrire ce texte, donc d'utiliser des mots que moi, j'utilisais pas souvent, en fait, pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mots, en fait. Pourquoi ? Parce que le personnage, en fait, c'est un personnage féminin qui est dans les photos. Et c'est comme un fantôme qui habite dans les photos, en fait. Elle est dans la photo, on ne sait pas où, vous voyez ? Mais à chaque fois, elle se promène dans la photo et elle habite dans la photo. Et... En fait, je m'étais dit que ce serait intéressant que, au fond, pour habiter la photo, parce qu'elle est toute seule, alors c'est le langage qui va l'aider, en fait, à habiter la photo. C'est en parlant et en se parlant à elle-même qu'elle va habiter la photo. Et si j'utilise des mots qu'elle n'a pas utilisés, comme si j'utilisais une profusion de mots, beaucoup de mots, en fait. Et en utilisant beaucoup de mots, il y a le sentiment qu'il y a plein de choses qui se passent, en fait. Que c'est comme si c'était une façon d'être avec ce que j'appelle le peuple des mots. Le peuple des mots, c'est-à-dire la foule des mots. En fait, c'est comme si elle était dans une foule de mots. En fait, les mots lui font une espèce de masse, et comme ça, elle est dans tous ces mots. Et elle est heureuse d'être dans tous ces mots, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup de mots parfois un peu compliqués, parce que c'est des mots que j'utilise d'habitude, j'utilise jamais en fait.
Vous avez écrit des poèmes, des nouvelles, fait des films. Qu'est-ce que vous préférez?
Je crois que ce que je préfère, c'est écrire des poèmes, en fait. En fait, j'ai écrit des films parce que j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas très bien écrire. Enfin, qui savaient écrire, mais disons qu'ils ne savaient pas faire des jolies phrases, disons. Et qui m'ont dit, tu veux pas m'aider à faire des films? Et aussi parce que j'aimais bien le cinéma, que je voyais beaucoup de films de cinéma. Alors, j'ai visité quand même beaucoup de pays. Moi, j'aime beaucoup quand il fait froid. J'aime beaucoup les pays, le Canada ou de l'autre côté, le Chili. Vous savez, le Chili en Amérique du Sud. Ça m'inspire bien. J'aime beaucoup la neige et tout ça. Sinon, j'ai visité tous les pays d'Europe. Et il y a le Maroc. J'ai beaucoup visité le Maroc parce que j'ai beaucoup d'amis marocains. L'Italie, parce que j'ai habité en Italie, en fait, à Rome. Ho vissuto a Roma. Et l'Allemagne, parce que j'ai habité à Berlin. Parce que des fois, je m'ennuie en France, alors j'essaie d'aller habiter ailleurs. Et puis sinon, il y a deux pays que j'ai beaucoup aimé, c'est Taïwan. En fait, à Taipei, c'est très bizarre. À Taipei, quand je suis allé à Taipei, vous savez, c'est écrit en chinois. Puisqu'ils parlent chinois, donc c'est normal. C'est pas écrit en anglais tellement. Et en fait, j'ai eu cette expérience vraiment bizarre, très bizarre, pour moi. C'est que j'étais comme un analphabète. Vous voyez ce que c'est un analphabète? C'est quelqu'un qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire, etc. Et donc, c'était plein de signes partout. Je voyais plein d'écritures, mais je ne comprenais rien. Et même au restaurant, j'étais obligé de au hasard. Je faisais ça. Et c'était très bizarre. C'était se retrouver comme quelqu'un qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. On est complètement perdu et c'est une expérience, c'est une expérience bizarre, quoi. Une fois même, j'étais dans un endroit, je me suis perdu, j'ai marché, je me suis perdu. J'avais écrit le mot chinois, mais en alphabet latin, vous voyez, comme là. Et donc, je disais au chauffeur, « I want to go Changhong. » Je disais très, très mal, en fait. Et il ne me comprenait pas. En fait, le chauffeur, parce que je ne savais pas prononcer la langue. Et donc, je disais... Alors, je lui montrais, mais il ne savait pas lire l'alphabet latin. Alors, j'étais complètement perdu. Et ça, c'était... Je trouve que c'est une expérience très forte, en fait, de comprendre ce que c'est de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire, etc. Et c'est ça... Voilà. Et comment j'ai fait? Alors, j'étais perdu. Le chauffeur, il ne me comprenait pas. Il ne parlait pas anglais. Et donc, j'ai été obligé d'appeler un ami chinois en France. Heureusement, il y avait les téléphones portables. Et j'ai appelé un ami et je lui ai dit, tu veux pas lui dire comment... Et heureusement, il y avait ça, parce qu'autrement, je me retrouvais pas et tout. Je me retrouvais pas sur les cartes et tout. Non, ça, à Taipei, c'est une expérience vraiment forte. Et puis, un autre pays que j'ai beaucoup aimé, c'était à Jakarta. Jakarta, c'est en Indonésie, Indonésie. J'avais été invité pour faire des cours à Taipei. J'avais été invité pour faire des cours pour parler sur Poetry and the Ideal Living, en fait.
Ah oui, la vidéo.
et donc ça, c'était à Taipei. Et à Jakarta, j'étais pour faire des cours sur une écrivain français qui s'appelle Marguerite Duras. Donc j'ai fait des cours à Jakarta. Et j'ai beaucoup aimé Jakarta. C'était aussi pourquoi j'ai aimé Jakarta, c'est à cause de la végétation et des plantes, en fait. C'est tellement différent, il y a tellement de plantes, beaucoup, c'est les tropiques. Et donc, Il y a plein de plantes partout, partout. Et j'ai adoré. Il pleuvait tout le temps, en plus c'était beau.
Peut-être un peu comme au Vietnam, non? Il y a beaucoup, Vietnam.
Beaucoup
de végétation. Trees and... Non?
Jungle. And...
Oui, c'est trop là-bas. Indonésie aussi, Philippines aussi. Mm.
Et Sri Lanka?
Oui, Sri Lanka aussi, oui. Ouais. Et le prochain pays où je voudrais beaucoup aller en Iran et en Afghanistan. Mais en Afghanistan, c'est trop dangereux pour un Européen. Et en Iran, en fait, ils m'ont pas donné le visa. Donc, parce qu'à un moment, j'ai été journaliste, en fait. Et alors maintenant, il paraît qu'ils sont ouverts. C'était il y a 5-6 ans, un peu plus même, peut-être. Maintenant, je pense que l'Iran, c'est plus ouvert. Donc, peut-être si je redemandais, je pourrais aller en Iran, mais j'ai très envie d'aller en Iran. J'aime beaucoup les paysages là-bas et tout. Bon, voilà. Donc, on verra si je peux y aller.
Et maintenant, nous allons écouter les traductions d'extraits dans nos langues d'origine.
Vous entendrez les poèmes en espagnol, en italien, puis en vietnamien.
اس کہانی میں کہانی لکھنے والے نے دل جیت لینے والے منظر کی تصویر کشی کی ہے اس میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس میں ایک لڑکی ادھر ادھر گھوم رہی ہے نیچرل چیزوں کو دیکھ کر جس میں اس کو یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی مل رہی ہے ایسے منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہے اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرپیکچولی ایک درخت ہے اور کھیتوں سے ہوتا ہوا ایک راستہ جاتا ہے یہ نہایت ہی خوبصورت منظر ہے کافی فصلوں میں سے ایک کا ذکر کیا گیا ہے جس میں جو کہ مکئی کی فصلوں کے دانوں کی فصل ہے لہراتی ہوئی فصل اور اس کی پرسکون فضائیں ہمیں اس بات کا منظر کشی کرتی ہیں کہ اس میں بیوٹی کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ مختلف رنگوں کا ایک مجموعہ ہے اس تصویر میں ہم خزاں کا موسم دیکھ سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سورج اپنی ساری کرنیں زمین پر بکھیر رہا ہے اس میں سے آتی ہوئی ایک سڑک ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ایک فصلوں کا ایک گاؤں کا منظر دکھایا گیا ہے اس میں
Solo los patos realmente saben cómo escapar de acuerdo con los científicos especializados, pero siempre me gustaría hablar como un flujo de información con el descamento de un viejo caballero famoso cuyo gerente de negocios es también la cosa que sigue mi aspecto. Podrían demandar por robo o por plagio físico o imitación vana y vulgar. Usted sabe cómo la vida se ha convertido en un obstáculo que se vende en cualquier corte. Sin embargo, la policía nunca vino. Estaba sola, necesitaba mover los muebles en la noche y tenía que haber una razón.
Một vài ngày sau đó, với cái quá khứ có ổn định, chỉ có dòng nước chảy xuống là vì một làn sóng không thể gồng gánh nổi, và niềm vui đã trở nên đen và trắng. Nó đến với anh ta đôi khi, cây đàn dương cầm chào chúng tôi một cách thật niềm nở. Lá thư ấy đã được giữ bởi bàn tay và nó cũng là một phép màu gì đấy, mà đã được ngụy trang ở đâu đó trên sông, đặt giữa bụi cây đậm nước và cái phao trắng. Những chiếc cano có thói quen gọi bến ở đây không? Cũng có thể và một ngày sau đó sẽ chiếu sáng chúng ta bằng những chiếc lồng đèn giấy trong những nơi chúng ta mà đã cặp vợ chồng đã thoáng thấy hy vọng của họ. Một vài thứ gì đó đã nói với anh ấy như là lời nói dối bí mật trong khung cảnh lúc ấy. Một cuộc bắt đầu của một gia đình trên dòng sông khác. nhưng ta lại không biết chắc chắn về điều đó. Những chiếc xe bốn bánh ngoài kia đang cuộn cùng với dầu nhớt và động cơ của nó. Nếu như cô ấy có thể đợi đủ trong một thời gian dài, tiếng động của những từ, những câu mà cô ấy đã phát ra xưa sẽ trở lại, những ám ảnh sẽ trở nên trong vị trí của cô ấy, đúng không? Vâng, nó có thể xảy ra. Sau đó cô ấy sẽ cố gắng giữ bình tĩnh trong bầu không khí ấy để không có thêm bất kỳ một căn nhà tồi tàn nào nữa.
Les premiers textes, vous l'aurez compris, étaient en ourdou et le troisième en vietnamien.
Cette émission est terminée. Merci de nous avoir, écoutés. On remercie Yasser pour la technique. Merci Rudy Trong et Shiza. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site internet de la radio, studiozef.fr. Maintenant, on va écouter la première MGA. Merci et au revoir.
Observe the silence we made.